Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales? C'est la dernière semaine pour le faire et pouvoir voter aux élections municipales. C'est le rush, vous verrez en ce moment dans les mairies. On va vous raconter dans ce journal cette arnaque qui émeut et scandalise à Nice, la carte d'identité d'une victime de l'attentat de la promenade des Anglais utilisée dans le cadre d'une fraude. Et on va se demander aussi si le vélo fera bientôt son apparition aux Jeux Olympiques d'hiver.
C'est la course en ce moment dans les mairies pour s'inscrire sur les listes électorales.
Oui, 5000 demandes ont été recensées depuis le début de l'année à Bordeaux, environ 1 milliard à Reims. Même constat à Nantes, à Toulouse. D'après RMC, les informations que nous avons recueillies pour s'inscrire sur les listes électorales et pouvoir voter donc au municipal du mois prochain, c'est la dernière semaine pour le faire. Il y a jusqu'à mercredi sur Internet, jusqu'à vendredi en mairie. Et il y a des actions absolument partout en France pour ceux qui ne sont pas encore au courant, nous dit Léonie Guilbeault pour RMC.
Tract à la main sur un marché parisien, les membres de ce collectif citoyen interpellent les passants avec une question.
Est-ce que vous êtes bien inscrite sur les listes électorales?
Non.
Et si vous voulez vous inscrire, il faut vraiment le faire parce qu'après, ça sera trop tard.
Oui, je vais m'occuper aujourd'hui.
Voilà. Une piqûre de rappel bien utile aussi pour Paul qui vient de déménager.
Je viens d'acheter, donc c'est vrai que j'étais un petit peu sous l'eau, donc j'ai pas forcément pensé tout de suite, quoi.
Et si vous ne savez pas si vous êtes inscrit,
j'ai même le QR code là qui permet que vous vérifiez votre inscription.
Alors on vérifie.
Alors, commune de Malakoff. Vote au bureau numéro 21. Voilà, c'est bon.
Partout en France, des initiatives sont mises en place. Des porte-à-porte sont organisées par des collectifs dans des cités universitaires. Même les applications de rencontres partagent à leurs utilisateurs un guide pratique pour s'inscrire sur les listes. Les mairies aussi vont au contact des habitants, comme à Marseille.
Alors aujourd'hui, on est dans le bus de la mairie mobile.
Alexandre est coordinateur de ce bus où chaque jour, des habitants du quartier viennent s'inscrire sur les listes électorales.
Là, ils voient que la mairie est devant chez eux. Ça enlève cette barrière de la distance. En fait.
Selon la mairie de Marseille, depuis un an, 36 000 nouvelles personnes se sont inscrites sur les listes électorales.
Hier, c'est un élu, un député UDR soutenu par le RN qui a remporté l'élection législative partielle en Haute-Savoie, la circonscription à la frontière suisse, 59%. Donc pour ce candidat qui devient député, le Front républicain n'a pas fonctionné. C'est la première fois que l'extrême droite remporte un siège de député dans ce département. Et Jordan Bardella, qui sera l'invité de RMC d'Apolline tout à l'heure, y voit un signe d'espérance à l'approche des municipales. La politique, c'est certainement aussi ce matin la fin du feuilleton du budget avec l'examen des deux motions de censure déposées par le RN et les communistes après le troisième recours au 49-3 pour le budget. Un rejet, comme les deux premières fois, si tel est le cas, eh bien sera synonyme d'adoption définitive de ce texte. Ça, c'est le combat, et on en parle ce matin, le combat de nombreux élus dans les zones blanches. Depuis ce week-end, sachez qu'il n'est plus possible de souscrire un abonnement ADSL. Le souci, c'est que seulement 80% du territoire est relié à la fibre, là, au moment où on se parle, si bien, et c'est ce qu'on vous raconte depuis tôt ce matin, donc sur RMC, si bien que certains optent pour le réseau Starlink du milliardaire Elon Musk. Marion Gauthier pour RMC.
L'antenne Starlink est plate, carré blanc sur un toit de tuiles. Elle couvre toute l'exploitation de Vincent.
Il suffit d'allumer, on attend les 10 secondes et tout est réactif et tout est rapide, quoi. Avant, il fallait attendre très longtemps et on n'était pas sûr que ça arrive.
L'agriculteur aurait pu avoir la fibre, mais il devait faire monter le câble de la route jusqu'à sa maison par un chemin privé. 6 000 euros à ses frais contre 700 pour installer Starlink.
Le seul côté négatif, c'est que c'est une entreprise qui appartient à Elon Musk, qui fait un peu ce qu'il veut au moment où il veut. On est dépendant de ça.
Ça me gêne, admet-il, mais on n'a pas le choix. Avec le bouche à oreille, on a largement dépassé la centaine d'installations Starlink, estime le gérant d'un magasin voisin du Gers. Quant à Monnetet-sur-Loire, dans l'Allier,
allô ?
Seul le téléphone passe bien chez le maire Yves Plouinec. Certains de ses administrés ont opté pour cette solution satellite.
C'est pas normal qu'en 2026, les gens sont encore obligés de payer du matériel qui vient d'Amérique. Nous, à la campagne, on est vraiment les oubliés.
Internet, enjeu de souveraineté, dit-il, et d'attractivité pour que des jeunes s'installent dans les petites communes.
La liste s'allonge ce matin avec de nouveaux rappels de lait infantile, de l'eau, de la marque de premier âge, de la marque Popote, qui invoque l'abaissement du seuil pour la toxine incriminée au moment donc de rappeler ces deux lots de lait premier âge. La famille du petit Émile demande des investigations complémentaires pour relancer l'enquête sur la mort du petit garçon. Souvenez-vous, à l'été 2023, au Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence, les avocats des grands-parents, précisément, qui demandent de procéder à des compléments d'audition de témoins et d'approfondir l'étude de la téléphonie. Il faut que vous y écoutiez, ce matin, l'indignation à Nice, bientôt 10 ans après l'attentat de la promenade des Anglais. Bientôt 10 ans après, un homme a tenté de frauder dans les transports en commun de région parisienne en utilisant la carte d'identité d'une victime de l'attentat de Nice, Inès Zegloul.
C'est à bord d'un train en banlieue parisienne que l'individu est contrôlé. En sa possession, relate le Parisien, une pièce d'identité, ancienne génération, un prénom, Ludovic, et une photo, celle de cet adolescent fauché sur la promenade des Anglais, il y a bientôt 10 ans. Très vite suspecté de fraude, l'homme qui croyait berner l'agent est emmené au commissariat en garde à vue. Il avoue, sur conseil d'un ami, dit-il, il aurait téléchargé la carte d'identité accessible en ligne depuis qu'elle y avait été postée par les proches du défunt qui lançaient un appel à témoins au lendemain de l'attentat.
C'est une façon horrible de replonger à la famille.
Immoral, insupportable, commente Hajer Benaouissi, elle-même rescapée et fondatrice d'une association de victimes.
Toutes ces familles qui peuvent maintenant avoir peur que leur mort soit utilisée pour des fraude ou autre. Là, vraiment, la justice, elle doit prendre une décision exemplaire qu'il y ait cette circonstance aggravante de ce trouble moral qui a été infligé. Voilà.
Contacté par RMC, le parquet en charge du dossier ainsi que la préfecture de police n'ont pas répondu à nos sollicitations.
Il y a 2 sportifs qui sont entrés dans l'histoire durant le week-end et qui ont encore les honneurs des journaux ce matin. L'Espagnol Carlos Alcaraz qui a remporté l'Open d'Australie de tennis, son 7e tournoi du Grand Chelem, en avance sur les temps de passage de Nadal ou Federer. Et il y a aussi le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, le petit-fils, vous savez, de Raymond Poulidor, qui est devenu champion du monde de cyclocross pour la 8e fois aux Pays-Bas. Le cyclocross, pour ceux qui connaissent pas, c'est du vélo dans la boue, dans les sous-bois, discipline ultra-télégénique qui se pratique en hiver et qui rêve d'ailleurs d'être intégré au programme des Jeux Olympiques d'hiver. Pas les prochains, mais ceux de 2030 en France, Kevin Morand.
Oui, le cyclocross et ses musiques festives. Rythme l'hiver ici aux Pays-Bas et en Belgique voisine, avec encore plus de 40 000 spectateurs hier pour les mondiaux, dont des Français comme Pierre Emmaël, pour qui le cyclocross aux Jeux Olympiques.
On est totalement pour.
Parce que c'est une bonne discipline d'hiver, il y a un bon engouement.
On peut être dans la neige, dans le sable. Du coup, pour moi, c'est une évidence, ça devrait être aux Jeux Olympiques.
Avec des cyclistes à pied pour passer les obstacles dans la boue, le vélo sur l'épaule, le cyclocross a de quoi séduire. Vice-champion du monde espoir à 19 ans, Aubin Sparfel se projette déjà.
On a beaucoup parlé avec le sélectionneur d'équipe des Français. Je pense que je serai dans l'âge parfait, on va dire, donc je vais pas lâcher le cyclocross.
Le président de l'Union cycliste internationale, David Lapartien, pousse pour sa discipline.
Sport d'hiver dans les Jeux d'hiver, c'est pas incongru. Surtout avec autant de public, autant d'enthousiasme. Et puis surtout, il y a des stars.
L'octuple champion du monde, Mathieu Van Der Poel, aura lui 35 ans en 2030, mais ne dit pas non.
D'abord, on va voir si ça va devenir olympique et après, je peux encore décider.
Je pense que ça serait joli pour le sport.
Le comité international olympique validera en juin le choix des 3 sports additionnels.
Mais alors avant 2030, il y a les Jeux de Milan Cortina qui commenceront vendredi sur RMC Radio officiel avec l'objectif qui est fixé ce matin de finir dans le top 5 au classement des médailles.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08 et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, la métropole d'Orléans a déposé une offre pour la reprise des actifs de Brandt.
Oui, un mois et demi après la liquidation prononcée par le tribunal, les investisseurs intéressés par la reprise des usines et marques Brandt, c'est donc Brandt, mais aussi Vedette, Sauterre, De Dietrich, avaient jusqu'à jeudi pour se manifester. Et ce qu'on a appris ce week-end, c'est que parmi ces offres, il y a celle de la métropole d'Orléans, qui effectivement est un peu une offre filet de sécurité, c'est-à-dire que si aucune autre offre française n'est retenue, eh bien, ce sera celle de la métropole d'Orléans qui viendra
à l'offre. C'est l'offre balai, quoi.
Ouais, c'est l'offre balai, exactement, parce que pour le moment, il y a 2 autres offres qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. L'entreprise bretonne Ever Ever, jeune pousse positionnée sur l'électroménager durable, a un beau projet, mais sa capacité financière est limitée. L'homme d'affaires Stéphane Français, lui, patron de Thomson Consulting, a une étoffe financière plus importante, mais son projet qui consiste à vouloir finalement mêler l'activité historique de Brandt à des produits informatiques est aussi très ambitieuse.
Est-ce que c'est raisonnable de croire au sauvetage de Brandt?
Ben oui, c'est possible, hein, parce qu'il y a des exemples européens et français, d'abord de sociétés d'électroménager qui marchent très bien malgré la concurrence asiatique en se positionnant sur le haut de gamme. C'est le cas de Miele en Allemagne, de Seb en France, parce que ces marques sont encore connues, hein, elles ont une valeur, parce que la sensibilité au Made in France, à la durabilité des produits, même si ces produits sont plus chers, eh bien, cette sensibilité a augmenté chez les Français, parce que globalement la compétitivité prix des produits français s'améliore par rapport aux concurrents. C'est ce que nous a dit Rex Ecode la semaine dernière. Et puis par contre, aucun espoir si c'est pour faire du low cost low tech.
Du low cost low tech.
Oui.
Ça marchera.
Alors le bas de gamme, pas très sophistiqué, où on cherche les prix. Non, il y a plus de débouchés pour les.
Merci Emmanuel Le Chypre, il est 8h09 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Mathieu, la proposition du MEDEF d'un CDI jeune fait beaucoup réagir les auditeurs.
Ralph nous écrit, moi je ne comprends pas le principe de payer moins les jeunes que le SMIC. Alors j'entends ce patron d'entreprise dire que si le jeune n'est pas compétitif, c'est compliqué de s'en séparer. Mais en attendant, même s'il n'est pas compétitif, il travaille pour l'entreprise, il doit gagner minimum le SMIC. Voilà ce que pense Ralph. Benoît nous dit, et la période d'essai pourtant c'est fait pour ça. Christophe écrit, il existe le CDD pour voir si un jeune ferait l'affaire. Guillaume nous dit, je suis prêt à embaucher des jeunes. Effectivement, la flexibilité, elle, est intéressante. Mais par contre, les payer moins, c'est totalement ridicule. Faut payer au moins le SMIC. Voilà ce que pense Guillaume. Et il l'a écrit sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. Christian nous écrit, le MEDEF se fourvoie encore sur la motivation des jeunes. L'apprentissage donne déjà des jeunes payés à 800-900 euros pendant 2 ans. On ne peut pas demander à des jeunes d'être qualifiés et payer 3 francs 6 sous en permanence. Que l'État baisse les charges des entreprises, nous écrit Christian ce matin sur le WhatsApp RMC.
Restez bien avec nous dans un instant. Arnaud Demange nous rejoint et puis notez qu'à 8h30, mon invité ce sera Jordan Bardella. Juste après, vous aurez aussi Nicolas Cantelou et ses imitations, bien sûr, comme tous les jours, à 8h50 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demange est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour, bonjour les amis. Ça fait du bien d'attaquer une nouvelle semaine avec vous sur RMC. RMC, la seule radio qui ne vous parle pas de Pierre Ninet toutes les 3 minutes. Non, mais c'est fou en ce moment. T'allumes un écran, boum, il est là. C'est le Alain Bauer du cinéma. Je n'en peux plus. Je mange Pierre Ninet, je dors Pierre Ninet. Hier, j'ai fait l'amour avec ma femme. Elle m'a dit, à quoi tu penses? J'ai même pas osé répondre. Il est obsédant, ce type. J'adore Pierre Ninet, hein, mais bon, j'aime aussi le chocolat. C'est pas pour autant que j'en bouffe 12 kilos par jour. Et alors, il y a une autre personnalité du cinéma qui a saturé l'espace médiatique ce week-end, c'est Melania Trump.
Ah oui.
Le documentaire Melania sur la première dame américaine est sorti dans 5000 salles dans le monde, mais pas en France. Mm. Eh ben super, merci. Mm. On se tape 5 films par an avec Pierre Ninet, mais un documentaire... Mais un pauvre documentaire sur Mélanie, on va devoir attendre qu'il passe sur Prime Video si on veut ne pas le regarder.
Voilà.
Alors Trump a tweeté que le film était exceptionnel, à voir absolument.
It's good, good.
Good, good, wonderful. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire pour coucher à nouveau avec sa femme,
hein. Oh.
En tout cas, le film aura rapporté 40 millions au couple. Il doit être content, en fait, Trump, d'avoir acheté Melania il y a 40 ans. Il y a 20 ans, pardon. Non, mais 20 ans, hop, et puis 40 briques après, pouf, un bon investissement, quoi. Bon investissement. Ah ouais,
c'est moi, la chronique écho.
Je suis éclaté. Moi, j'irai pas le voir, hein, ce film sur Melania. Désolé, regarder une femme glaciale faire la gueule pendant 1h30. J'en ai déjà vu plein, des films avec Isabelle Huppert.
Oh, je veux dire,
quitte à avoir un film avec un cyborg qui a pas d'âme et qui vient d'Europe, autant se refaire Terminator, quoi. Là, ça a vraiment l'air long et chiant. Il faudrait qu'elle prenne exemple sur Brigitte Macron. Brigitte, c'est fun, tu la filmes 30 secondes dans les coulisses d'un théâtre, il se passe des trucs, elle soutient Harry Habitant, les féministes c'est des sales connes, etc. On n'a pas le temps de s'ennuyer. T'imagines le film de Brigitte, 20 jours non-stop.
Allez, Brigitte, le film, première. Brigitte, action. Aïe,
c'est le clap. Alors, je fais quoi? J'arrive pas à me concentrer. Il y a l'odeur des intermittents en plus. Ici, ça pue les gauchistes.
Non, Brigitte, ça tourne là.
Au fait, cet après-midi, je te préviens, je tourne pas. Hein. Je rends visite à Joël Guerriot avec Morandini. Oh. Le 06 de PPDA, on aimerait l'inviter. Hein, en 2 minutes, il se passe déjà plus de trucs qu'avec Mélania.
Un coup de tonnerre, Arnaud, s'est produit ce week-end dans la campagne présidentielle pour 2027.
Oui, c'était un week-end choc. Ouais. Une journée charnière. Apolline, Lucie Castet a annoncé qu'elle ne serait pas candidate.
Non. Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Je sais, ça fait quelque chose. C'est fou, hein, le parcours de Lucie Castet. Quel destin. Il y a un an, personne la connaissait, tout le monde s'en foutait, et maintenant, regardez, tout le monde s'en fout aussi, sauf qu'on la connaît. On n'avait pas vu une telle carrière politique depuis Stanislas Guérini. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, Stanislas Guérini aussi renonce à 2027.
Oh non, me dites pas ça.
Et à 2032. Oh. Il ne l'a pas déclaré encore. Je le fais à sa place. Hein, ça fait gagner du temps à tout le monde.
Arnaud, 3 millions de documents relatifs à l'affaire Epstein ont été divulgués par la justice américaine.
Et c'est atroce. On lit des monstruosités sur les célébrités qui se rendaient dans des soirées de débauche. Moi, j'ai épluché quelques pages en me disant « Pourvu que Thomas Pesquet
soit dedans. Eh bien, figurez-vous que ce salaud n'y est même pas. Il n'y a vraiment décidément rien à lui reprocher. Monsieur parfait. Épuisant.
Vous Sinon, faites une petite obsession peut-être sur Thomas Pesquet et Pierre Ninet.
Hein, les deux. J'arrive pas à les détester. Sinon, il y a énormément de célébrités. Donald Trump, le prince Andrew, c'est accablant pour eux. Ils sont à un point où Bolloré peut leur proposer une quotidienne. Et sur Twitter, dans les forums, j'ai vu aussi Woody Allen, Bill Gates, Cyril Ferraud. Grosse surprise, les photos de Cyril Ferraud tout nu avec les nains de Fort Boyard et Nagui. Vous avez vu ça? Ah ça, non. C'est pas Théo Curin qui aurait eu les mains baladeuses comme ça.
Pareil,
les vidéos entre Jeffrey Epstein, les frères Lebrun et Lynn Renault.
Oh non.
Énorme choc. Vous savez pas qu'on pouvait faire des trucs comme ça avec du maroilles et des raquettes de ping-pong.
Oh ouais.
T'es au courant? Et alors les photos de Bill Gates avec Jean-Jacques Goldman, alors là c'est le pompon. Surtout la partie avec la crème fouettée, les pinces à linge, les tuyaux en plastique, le lubrifiant et les hamsters. Et Michel Drucker qui filme, alors vraiment c'est épouvantable. Attention, il paraît qu'il y a beaucoup de témoignages farfelus dans les 3 millions de pages. La séquence zoophile avec Danny Boone et Grand Corps Malade, c'est peut-être un fake. Attention à ce que vous lisez sur Internet.
Allez, ce que vous entendez sur RMC.
Gros bisous.
Merci Arnaud. Demain, je vous retrouve à tout moment en podcast. Sur RMC.
Détendez-vous sur RMC avec Soupe de Com, une école du réseau compétences et développement.
Dans un instant, mon invité sur RMC BFM TV, c'est Jordan Bardella, le patron du RN. Mais d'abord, je voudrais accueillir Valérie qui nous appelle au 3216 depuis Aix-en-Provence. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour Apolline.
Valérie, vous êtes responsable d'un cabinet de recrutement et précisément, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue sur ce CDI jeune que défend le MEDEF.
Alors, le CDI jeune, il y a du pour et il y a du contre, à mon avis. Effectivement, sur la flexibilité, je me dis que ça peut peut-être être un moteur pour permettre aux entreprises de se lancer.
D'oser, quoi.
Mais voilà, mais bon, la rémunération, j'en parle même pas, pour moi c'est juste aberrant parce que je vois pas comment on peut vivre avec
un sous-smic.
Voilà, exactement, ça me paraît juste pas possible. Mais par contre, il y a un autre point qu'il faut que les gens comprennent, c'est que moi, sur les candidats que j'ai au quotidien, avant d'être dans un cabinet de recrutement, j'étais dans de l'intérim, j'étais plus de 15 ans. En fait, la moitié des gens, jeunes ou pas d'ailleurs, ne veulent pas de CDI. C'est pour ça qu'on a des CDD, de l'intérim tout le temps, parce qu'en fait, au final, les
ça
attaches...
Ça n'est plus le Graal, non ?
Non, c'est plus le Graal, du tout. Alors, je dis pas pour tout le monde, hein, évidemment, dans certains cas...
Mais c'est pas le CDI ou rien, comme ça pouvait être avant ?
Ah, plus du tout. Plus du tout. Et aujourd'hui, si on dit un CDI avec progressif sur 3 ans, quand on regarde la moyenne que les gens passent dans la même entreprise aujourd'hui, c'est pas les 25, 30 ans ou toute une vie d'avant, c'est 3 à 5 ans maximum.
Ouais. Donc en réalité, la durée et effectivement la constance ne sont plus des objectifs en fait pour ceux que vous embauchez. C'est super d'avoir votre témoignage, Valérie, qui justement s'occupe de recruter les jeunes. Et ben vous savez quoi, je poserai aussi la question dans un instant à mon invité, le patron du RN, c'est Jordan Bardella. Tous les sondages le donnent gagnant, quelle que soit la configuration pour les élections de 2027. D'ailleurs, qu'il soit à la place de Marine Le Pen ou pas, et les idées du RN n'ont jamais trouvé autant d'adhérents dans le pays. Je lui poserai notamment la question de ce CDI jeune, mais aussi de savoir quelle relation il entretient avec la position de Donald Trump sur le reste du monde. Il avait acclamé l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Qu'en pense-t-il aujourd'hui? Il est 8h20, on se retrouve dans un instant sur RMC BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h26 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour madame, merci pour votre invitation.
Merci à vous d'y avoir répondu et d'être présent ce matin. Vous êtes président du RN, vous êtes député européen, de très nombreuses questions à vous poser, d'ailleurs sur la France et sur le monde. Mais c'est vrai que quand on regarde tous les sondages, alors quelle que soit la configuration, vous êtes donné gagnant. Que ce soit vous ou Marine Le Pen, surtout vous d'ailleurs. Les idées du RN n'ont jamais été aussi partagées par les Français. Comment vous vivez ça?
Avec beaucoup d'humilité et surtout une très grande responsabilité. Chaque jour qui passe, nous nous préparons à exercer le pouvoir. Il y a une attente très forte aujourd'hui dans le pays d'une alternance, d'un changement sur la politique économique, sur la politique sécuritaire, migratoire, sur la défense des intérêts de la France en Europe, mais aussi dans le monde. Et nous nous efforçons de porter en France cette voix du peuple, cette voix de la fierté française et de cette aspiration à la puissance qui s'exprime en France, mais qui s'exprime aussi dans toutes les grandes démocraties.
Qu'est-ce qui pourrait vous faire rater la marche ?
Tout tout, madame. L'élection est un long chemin. L'élection présidentielle et législative sont un chemin de croix. J'ai toujours considéré que le pouvoir ne nous serait jamais donné, qu'il serait conquis de haute lutte. Et donc, nous travaillons non seulement pour faire connaître aux Français nos propositions, mais surtout pour rassembler les Français. Je pense qu'il y a un besoin d'unité aujourd'hui dans le pays. Et moi, je veux convaincre aussi les Français qui ont encore des hésitations ou des craintes à l'égard des idées que je peux porter, que si le redressement des nations est possible dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays du monde, alors il est aussi possible en France.
On va y revenir avec évidemment aussi la question en toile de fond de l'avenir judiciaire de Marine Le Pen. Ça se joue aujourd'hui même, hein, le dernier jour avant les réquisitions demain. Mais d'abord, effectivement, vous parliez de la question de la puissance dans le monde. L'Iran, désescalade entre Donald Trump et le pouvoir iranien, signe d'apaisement, si on peut dire comme ça, côté iranien, puisque les exercices militaires dans le détroit d'Ormuz qui étaient prévus ont finalement été annulés. Et du côté de Donald Trump, ce qui apparaissait comme un préalable, c'est-à-dire le changement de régime, n'est finalement plus exigé par les États-Unis pour pouvoir discuter. Donc l'intervention, elle semble s'éloigner. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Rares sont les interventions militaires américaines qui se sont soldées par la démocratie. On se souvient, il faut avoir de la mémoire lorsqu'on fait de la politique à ce niveau, on se souvient des interventions en Afghanistan, on se souvient de l'Irak, on se souvient sur un plan un peu plus proche de chez nous de la Libye. Rares sont les interventions militaires extérieures qui se sont soldées par la démocratie. Il y a encore quelques jours, l'intervention militaire au Venezuela a entraîné la chute du dictateur Maduro, mais on voit que le régime, il est aujourd'hui toujours en place. Donc moi, je suis extrêmement prudent à l'égard de toute forme d'intervention militaire dans des zones qui sont des zones extrêmement compliquées, extrêmement périlleuses. Et j'aimerais dire que la France et l'Europe doivent, au-delà de tout cela, dénoncer sans réserve la répression extrêmement brutale qui s'abat aujourd'hui
mais
sur
si
le peuple
iranien. Mais si on dénonce et qu'on fait rien ?
Nous devons d'abord être solidaires à l'égard du peuple iranien,
on l'est là,
le
non
dire, le redire, qui se bat, c'est vrai, pour sa liberté et pour sa dignité. Et je pense que le rôle de la France, puisque moi j'aspire à être dirigeant politique français, c'est d'être une puissance d'équilibre. Solidarité envers les manifestants, fermeté envers le régime. Je soutiens et j'ai soutenu l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes par l'Union européenne. Nous devons évidemment faire le nécessaire pour protéger nos ressortissants et mettre en œuvre des pressions diplomatiques et économiques sur le régime des Mollahs, qui est un régime terroriste, qui est le sponsor du terrorisme non seulement en Europe. Je vous rappelle que il y a eu ce projet d'attentat, cet attentat sur le sol français en 2018 à Villepinte contre ce qui était considéré comme des résistants au régime iranien. Et puis il y a eu évidemment ce sponsor du Hamas lors des ignobles attaques qui ont visé Israël le 7 octobre 2023 par l'Iran.
Donc
l'Iran est une dictature islamique. On ne se contente pas de mots. Nous pouvons mettre en œuvre des pressions économiques, des pressions politiques, des pressions diplomatiques. Mais c'est vrai que nous sommes, nous, extrêmement vigilants quant à une éventuelle intervention militaire. Parce que ce que nous ne savons pas en réalité dans le cadre des exercices et aujourd'hui des opérations militaires qui sont menées autour de l'Iran par le président Trump, quel est l'objectif et le périmètre d'une potentielle intervention ? Est-ce que c'est cibler le nucléaire militaire ? Est-ce que c'est cibler le guide suprême ? Est-ce que c'est frapper les gardiens de la Révolution ? Nous n'avons pas la réponse aujourd'hui.
Il vous fait peur, Donald Trump ?
Non, il ne me fait pas peur.
Dans son agitation ?
Certain que le président Trump a, je dirais, un côté très, très incertain et très imprévisible dans les actions qu'il peut conduire. Moi, je pense qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Sans doute dissimule-t-il cela par des revirements de postures, mais qui ne sont
modèle
que des postures. Mais ça n'a jamais été mon modèle.
Vous avez plusieurs fois dit que c'était une chance, y compris pour la France.
Pas du tout. J'ai précisément indiqué que le vent de liberté qui soufflait sur les États-Unis d'Amérique ne devait pas faire de nous des êtres naïfs et que si Trump était bon pour l'Amérique, alors il serait mauvais pour la France et pour l'Europe. J'ai entendu ce matin sur votre antenne.
L'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Ça, c'était Marine Le Pen. C'était pour le premier mandat.
Merci.
Tout à
donc
fait.
Quelle année ?
Le premier mandat. Je n'ai plus en tête exactement,
voilà,
mais c'est
en 2016.
Ah,
absolument. Donc, on parle du premier mandat, à l'époque où le président Trump n'était pas interventionniste, à l'époque où il envisageait de retirer les troupes militaires.
Pour vous, il y a le Donald Trump de 2016 qui
engagé
était,
dans le monde, d'une part.
Qui était un allié, celui-ci ne l'est plus.
Deuxièmement, madame, il était opposé à l'accord de libre-échange l'accord du TAFTA, qui était un accord de libre-échange avec l'Amérique, et qui évidemment menaçait l'industrie, l'économie et l'agriculture. Il y était opposé à l'époque. Mais c'est vrai que le mandat de Donald Trump, tel que nous le vivons depuis un an, est de manière significative très différent du premier mandat de Trump que nous avons
vécu. Mais Jordan Bardella,
moi je ne retire pas un mot. Je ne retire pas un mot des propos que j'ai pu tenir depuis l'élection de Trump, pour une raison très simple. Et j'ai entendu ce matin l'édito d'une de vos journalistes qui a dit beaucoup de bêtises sur le sujet. Je ne retire pas un mot parce que précisément, il se passe exactement ce que j'avais indiqué. Écoutez, sur votre antenne, en novembre 2024, j'avais indiqué que l'élection de Trump devait être une opportunité pour l'Europe de retrouver notre souveraineté et notre indépendance. 8 jours après l'élection de Trump, le 13 novembre 2024, au Parlement européen, j'ai indiqué la chose suivante. Face à Trump, réveillons-nous ou bien nous disparaîtrons. 24 heures après l'investiture de Trump, au Parlement européen toujours, l'Amérique de Trump lance un défi de puissance à la France et à l'Europe. Réagissons ou bien nous sortirons de l'histoire. Et j'ai critiqué, madame, avec beaucoup de détermination, l'accord commercial qui a été négocié par l'Union européenne et les États-Unis à l'été dernier, qui est un accord qui acte la vassalisation économique, à notre demande aussi, la vassalisation économique de l'Europe. Donc, moi, ma seule boussole, madame, en politique étrangère, c'est que la France redevienne un pays non aligné, qu'elle soit capable de parler à tout le monde, qu'elle ne se soumette à personne et qu'elle défende ses intérêts.
Question
d'abord.
Précisément, est-ce que face à ce désordre du monde, quand vous dites l'Europe doit se réveiller, est-ce qu'il ne faut pas plus d'Europe?
Mais l'Union européenne.
Est-ce que la France peut rester seule?
Mais l'Union européenne, d'abord, la France n'est pas seule. La France œuvre et travaille aux côtés de nations européennes. Mais nous retrouverons ce goût et cette aspiration à la puissance, que ce soit pour la France ou pour les nations européennes, en changeant le fonctionnement aujourd'hui de l'Union européenne qui organise l'impuissance collective, qui nous a pieds et poings liés, notamment sur les règles commerciales, qui fait qu'aujourd'hui, dans les marchés publics, par exemple, liés à la défense, on ne peut pas donner une priorité d'accès aux boîtes européennes. Enfin, je vous donne un exemple très concret. C'est ça aussi l'Union européenne. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, 80% des hausses de dépenses militaires qui ont été mises en œuvre dans les différents États membres l'ont été au profit de sociétés extra-européennes et notamment de sociétés
américaines. Donc vous leur dites acheter français.
Donc je leur dis non seulement acheter français, mais je viens leur dire que la France doit prendre l'initiative d'une nouvelle architecture européenne, d'une nouvelle forme de construction européenne avec toutes les nations qui aspirent
à la place de l'Union européenne,
à la puissance, bien sûr. En vertu du rôle historique de la France sur le continent européen, avec comme projet de briser l'encerclement aujourd'hui dans lequel est empêtrée l'Union européenne, avec à l'Ouest, j'en termine madame, avec à l'Ouest une vassalisation technologique et militaire à l'égard des États-Unis, à l'Est une vassalisation industrielle à l'égard de la Chine et des pressions migratoires toujours plus fortes au Sud. Mais il reste toutes les nations européennes qui entendent se joindre à la France pour prendre l'initiative d'une nouvelle forme de coopération européenne qui soit basée non seulement sur le respect des souverainetés, mais qui puisse nous permettre de réaffirmer notre puissance.
C'est l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne, c'est quoi?
Mais il faut se mettre autour de la table en déterminant des objectifs communs. L'indépendance passera d'abord par la croissance. Et je me permets de vous rappeler que lorsque le président Trump a été élu, j'avais moi-même demandé au Parlement européen la suspension du Green Deal, c'est-à-dire du pacte vert et de la multiplication des normes toujours plus lourdes, de la paperasse qui pèse sur nos chefs d'entreprise, que ce soit les petites entreprises, les ETI ou les grands groupes. Si on veut être indépendant demain, on a besoin de produire en France, on a besoin de produire sur le sol européen, et c'est la raison pour laquelle moi je demande non seulement qu'on arrête la naïveté commerciale, qu'on soit capable d'utiliser des droits de douane lorsque notre industrie, par exemple automobile, est menacée, qu'on fasse de la préférence nationale et de la préférence européenne pour faire
mais
en sorte que
encore faut-il avoir des gens qui achètent. Je prends un exemple, vous êtes monté au créneau sur LMB Aerospace, qui est donc ce sous-traitant du secteur de la défense qui a été autorisé à la vente pour les États-Unis. Mais il n'y avait pas de repreneur français?
Mais madame, pardon, d'abord...
Mais je veux dire, vous pouvez pas inventer que ça reste français si personne n'en veut.
D'abord, ce qui s'est passé avec LMB est bien la preuve que notre gouvernement n'a rien compris à la nécessité de la souveraineté et de la puissance. Parce qu'on nous parle matin, midi et soir de puissance, de souveraineté, de réindustrialisation. Or, on s'aperçoit que depuis bientôt 10 ans, Emmanuel Macron, et en l'occurrence ici Monsieur Lescure, ont été des liquidateurs. Ils ont vendu la France à la découpe. Je vous rappelle que le macronisme, ça commence
Jordan Bardella, il y a deux personnes qui montent au créneau là-dessus, c'est Jean-Luc Mélenchon et vous.
Mais non seulement je monte au créneau, Mais si j'avais été Premier ministre, le gouvernement français se serait opposé.
Mais oui, mais
à la vente de
comment
LMB.
Vous pouvez vous opposer s'il n'y a pas de racheteur? Madame, en fait, tout ça est totalement théorique.
Non, pardon.
Il n'y avait pas de racheteur français.
Madame,
vous pouvez pas l'inventer.
Madame, on parle pas d'une usine désaffectée. D'accord? LMB est la propriété, était, depuis 2022, d'un groupe, d'un fonds d'investissement, qui gère près de 50 milliards d'euros d'actifs, qui s'appelle Tikeo. Tikeo a racheté LMB, qui est une pépite de la souveraineté militaire et de la souveraineté industrielle de la France, qui équipe notamment en système de ventilation, les Rafales, le porte-avions, les chars Leclerc. Tikeo revend LMB 400 millions. Ça veut dire une plus-value de 100%, madame, en moins de 3 ans. Donc, on n'est pas ici dans le cadre d'une usine désaffectée.
Donc, vous auriez
encore
sanctionné
organiser...
Tikeo? Non. Vous lui auriez interdit de le vendre?
J'aurais mis, compte tenu de la nécessité stratégique d'avoir LMB dans le giron industriel français, pour nos armées, pour notre souveraineté, pour nos systèmes aériens, j'aurais effectivement, dans le cadre du décret Montebourg, utilisé les armes juridiques que me donne aujourd'hui l'État pour protéger la souveraineté de la France. Est-ce qu'on imagine, madame, le Pentagone ou des boîtes américaines hautement stratégiques liées à la défense des États-Unis d'Amérique se faire racheter par des sociétés chinoises ou par des sociétés européennes? Depuis 2014, madame, il y a 1500 entreprises françaises qui sont passées sous pavillon américain. Donc moi, je ne résous pas à ce que notre pays soit vendu à la découpe, parce que ça pose un enjeu très simple, celui de l'extraterritorialité du droit américain. Si demain, madame, LMB, qui produit des systèmes de ventilation et qui équipe nos Rafales, est propriété d'une entreprise américaine, et que, en vertu de l'extraterritorialité du droit américain, les États-Unis décident de mettre un veto sur des exportations de Rafales, au motif que le pays qui accueillerait ces Rafales serait en conflit avec les États-Unis d'Amérique, on fait quoi ?
On active ce qu'on appelle le golden share de l'État, qui est effectivement une des clauses. Mais en effet,
ça
pose une vraie question. Mais vous vous heurtez aussi au réel, qui est qu'il n'y avait pas d'entreprise française qui était prête à racheter.
Non, madame, c'est faux. Deux observations. La première, c'est que sur le golden share, qui est un mot qu'on a maquillé techniquement pour dire en gros que l'État peut monter au capital avec une action préférentielle, de manière très concrète. Ce golden share dont a parlé Monsieur Lescure n'empêche ni le transfert de technologie, ni le transfert de brevets. Donc on voit bien que les grandes nations qui réussissent dans la mondialisation raisonnent en termes de souveraineté et en termes de puissance. Nous, on raisonne en termes de braderie et de transactions de l'industrie française, et je n'accepte pas cette logique.
Plusieurs questions.
C'est la raison pour laquelle, pardon, juste pour vous répondre très concrètement, si demain nous sommes à la tête du pays, nous mettrons en place un fonds souverain. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui conservent de l'épargne ou qui placent leur épargne sur le livret A et qui déplorent que cette épargne ne soit pas rémunérée. Moi, si demain je suis à la tête du gouvernement, je proposerai aux Français de devenir actionnaires de la Maison France et de placer pour les Français qui le souhaitent leur argent contre rémunération chaque année, encore une fois sur la base du volontariat, dans un fonds souverain qui aura vocation précisément à répondre à ce type de cas industriel, à financer la réindustrialisation, à financer l'intelligence artificielle, à financer la tech, à financer les grands projets qui doivent permettre à la France de redevenir une grande puissance, parce qu'encore une fois, moi je ne me résous pas à voir la France devenir un désert
Jordan
industriel.
Bardella.
Mon
Pendant
ambition,
ce temps-là...
c'est la croissance, la production, la souveraineté, l'indépendance et la puissance.
Pendant ce temps-là, le budget donc devrait être adopté d'ici ce soir, malgré une motion de censure à nouveau déposée par vous, mais qui n'a aucune chance d'aboutir. Je préférerais donc passer à des questions aussi sur les municipales. Plusieurs questions. D'abord, une question très pratique que je pose
madame,
à peu près à tous ceux qui
On parle quand même
sont...
d'un budget... qui est un budget qui dégouline d'impôts et qui va rentrer en application par le jeu d'alliance entre les Républicains.
Oui, mais on est d'accord qu'il ne se passera rien.
Et le Parti Socialiste. Mais ça va nous coûter combien?
Ah bah non, mais ça, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec ce budget.
Moi, j'entends beaucoup dire un budget, c'est mieux que pas de budget. Oui, sur la rhétorique, c'est vrai. Mais entre un budget socialiste qui dégouline d'impôts, qui va augmenter les prélèvements obligatoires de près de 30 milliards d'euros, madame, avec de nouvelles taxations sur les entreprises françaises, enfin, rendez-vous compte. Encore une fois, on nous parle toute la journée de croissance, de réindustrialisation, de souveraineté, et de l'autre, on va augmenter la fiscalité sur les entreprises françaises. On nous dit que ça concerne les grands groupes, mais vous savez très bien que ça va concerner l'ensemble de la chaîne de valeur et que ce qui est taxable sur les grands groupes va évidemment
vous
se répercuter sur les ETI.
Vous allez donc à nouveau déposer une motion de censure.
Donc nous sommes opposés à ce budget et nous considérons qu'il faut baisser la fiscalité
à propos du MEDEF, Jordan Bardella, vous l'avez peut-être vu, il propose un CDI, il propose comme piste de réflexion un CDI jeune où il y aurait effectivement un SMIC moindre, un SMIC jeune, mais aussi des droits qu'on gagnerait sur 3 ans. Vous en pensez quoi de ça?
Je pense que c'est du nivellement par le bas et que ça n'est pas le sujet en réalité. Le sujet, c'est de permettre à chaque jeune Français de pouvoir vivre en France, de pouvoir travailler en France, de pouvoir gagner sa vie en France sans être accablé de normes, de taxes et d'impôts. Et je pense qu'il faut faire en sorte que les jeunes rentrent plutôt sur le marché du travail, et vous savez que nous portons comme ambition, sur le modèle suisse ou sur le modèle allemand, de revaloriser de manière significative à la fois l'apprentissage, mais dès le collège, les savoirs manuels, les métiers professionnels, parce que nous avons besoin, encore une fois dans une logique de réindustrialisation, eh bien d'avoir des jeunes qui soient formés à des métiers manuels et dont les filières sont valorisées et dont la France doit être fière.
Ce maire qui refuse de célébrer un mariage sous OQTF, il a une astreinte financière à partir de cette semaine de 500 euros par jour, qui passera même à 3000 euros par jour si le mariage n'est pas célébré. Est-ce qu'il faut qu'il continue à s'opposer à ce mariage et que sa commune paye ses astreintes?
D'abord, je lui apporte mon soutien et mes encouragements dans ce combat qu'il mène, qui est un combat admirable parce que c'est un combat au fond pour le droit. J'ai entendu, vous avez interrogé il y a quelques jours à ce même micro et sur cette même question Éric Ciotti, le président de l'UDR, qui est un allié, l'ancien président des Républicains, qui a précisément porté à l'Assemblée nationale un projet de loi pour réparer ce qui apparaît aujourd'hui pour beaucoup de Français comme une anomalie juridique, une anomalie politique. À partir du moment où vous êtes présent sur le sol français, il y a 400 OQTF, 400 obligations de quitter le territoire français.
Entre deux droits.
Vous ne devriez pas pouvoir rester sur le sol français et encore moins pouvoir bénéficier.
Donc pour vous,
de ces
il faut qu'il tienne et même qu'il paye. Grenoble, malgré la décision du Conseil d'État qui se prononçait contre en juin 2022, Éric Piolle affirme qu'en réalité, dans les piscines de Grenoble, il autorise le port du burkini et il vient de le redire dans une interview. Il y a donc une contradiction entre ce que lui impose le Conseil d'État et ce qu'il fait concrètement dans la ville. Est-ce que là aussi, est-ce que le maire doit quand même tenir sur sa propre conviction?
Il y a quelque chose de très révélateur, madame, dans cette interview, c'est que nous avons commencé l'interview en parlant de l'Iran et en parlant de ce peuple qui est en train de se soulever contre la dictature islamique. Et moi, je vois des pays dans le monde où des peuples ou des femmes retirent leur voile, sont battus à mort pour cela et se battent contre la dictature des islamistes. Pendant ce temps-là, en France, vous avez certaines qui non seulement se battent pour remettre le voile, mais vous avez des élus de gauche et d'extrême gauche qui, main dans la main avec les islamistes, sont dans la roue de toutes les revendications des frères musulmans et des fondamentalistes islamistes. Et ils le font en violation même de la loi, parce que le Conseil d'État et la justice administrative s'est déjà prononcé contre cette décision.
Donc on voit bien là un parallèle entre Éric Piolle et les Mollahs.
Oui, je pense qu'ils se font les relais en France, ces élus d'extrême gauche, des revendications des frères musulmans et des islamistes. Je vous rappelle, madame, qu'il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, nous avons permis l'adoption d'une résolution qui plaçait les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. La gauche a refusé de la voter. J'étais il y a quelques jours au Parlement européen à Strasbourg. À Strasbourg, où une mairie écologiste a fait voter une subvention de plus de 2 millions d'euros en violation totale de la loi, ça a été annulé par la justice, à une mosquée, la plus grande mosquée d'Europe, qui est sous la coupe du Miligorus, c'est-à-dire le bras armé des fondamentalistes islamistes de Turquie. Donc, la gauche française et la sphère islamiste sont aujourd'hui main dans la main contre la France, contre les valeurs républicaines. Et il y a évidemment un enjeu dans ces élections municipales, comme il y en aura un demain dans les élections présidentielles et les élections législatives. C'est un enjeu de civilisation. Et cette gauche-là, madame, elle a trahi la République et elle a trahi l'intérêt national.
Jordan Bardella, comment va Marine Le Pen?
Marine Le Pen est combative. J'aurai l'occasion de la voir ce matin. Nous parlons tous les jours. Elle mène un combat admirable et un combat exemplaire pour prouver son innocence. Et je souhaite de tout cœur qu'elle puisse porter nos couleurs lors de l'élection présidentielle.
Vous pensez qu'elle peut s'en sortir? Les réquisitions du parquet sont demain?
Oui, bien sûr, puisque d'abord, elle est innocente des faits qui lui sont reprochés. Et deuxièmement, il y a beaucoup de Français dans notre pays qui ne comprendraient pas que sur la base d'un désaccord administratif avec le Parlement européen, encore une fois, il n'y a ni emploi fictif, ni enrichissement personnel. On prive de candidature une patriote qui a toujours été en première ligne de la vie politique, qui est d'une intégrité totale, et qui n'a rien à se reprocher et qui, encore une fois, est aujourd'hui donné gagnant de l'élection présidentielle.
Jordan Bardella, président du RN et député européen, merci d'avoir répondu
à
mes questions. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisité par Nicolas Canteloup. Jordan Bardella était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Jordan Bardella. Éric Ciotti, vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'interview de Jordan Bardella. Qu'en avez-vous pensé ?
Bonjour Madame Malherbe. Écoutez, j'ai écouté attentivement votre interview. Je partage les diagnostics de Jordan Bardella, bien évidemment. J'ai la même vision, le même amour de la France, le même discours, le même physique.
Oui.
C'est bien simple, lui et moi, on nous confond très souvent.
Ah bon ?
Mais oui, oui, mais ouvrez les yeux, Madame de Malherbe. Hein, deux beaux bruns aux cheveux courts. Oui, d'accord, très court.
Oui,
très court,
voilà.
Hein. Et puis, bien bâti, d'origine italienne, hein, Ciotti, Bardella, hein, ça sonne Italie tout de suite, hein, bien sûr. Il y a de quoi se tromper, d'ailleurs, Jordan le sait, et je m'en excuse auprès de lui, c'est vrai que c'est pénible pour lui, toutes ces jeunes femmes qui l'arrêtent dans la rue pour prendre un selfie en pensant que c'est moi. Hein. Je m'en excuse. Non, la seule chose qui peut permettre de nous différencier, c'est que, contrairement à moi, Jordan ne parle pas tous les jours de Christian Estrosi.
C'est vrai, c'est vrai, hein. C'est vrai.
D'ailleurs, je le dis, Jordan, pour être bien clair, je suis bien sûr toujours très intéressé par le poste de ministre de l'Intérieur si jamais il venait être élu, hein, donc en 2027. Donc, et je le ferai avec plaisir pour pouvoir arrêter les bandits de notre pays et surtout Christian Estrosi.
Il postule, hein, monsieur Bardella. Merci en tout cas, Éric Ciotti. Marine Le Pen, bonjour. Vous avez écouté l'interview de Jordan Bardella, bien sûr.
Oui, bonjour madame. Écoutez, j'ai écouté, bien sûr. Que dois-je faire d'autre ? J'ai bien compris que c'était lui la vedette désormais. Et maintenant, j'ai bien compris que Jordan a un destin présidentiel. Et j'ai bien compris qu'il vend des bouquins qui cartonnent. J'ai compris qu'il avait une histoire d'amour très glamour avec une princesse. Moi, j'ai quoi à côté ? J'ai un procès. Des calendriers de chats. Et en termes de glamour, j'ai vécu avec Louis Alliot. Voilà. Pas mieux. Voilà. Excusez-moi.
On vous sent un peu amère, Madame Le Pen.
Amère, moi ? Non, pas du tout. Écoutez, pourquoi ? Hein ? 20 ans que je m'échine à me préparer la présidence. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, au moment où elle me tendait les bras, je suis ravi de l'offrir sur un plateau.
C'est dur. Ah, oui.
Mais bon, comme ça, cela me laisse le temps de regarder votre émission sur RMC Story, Apolline chez vous.
Ah oui, vous avez regardé ?
Oui, je vous ai vu dans le petit camion de Patrick, artisan boucher, qui veut sauver son métier de boucher ambulant. Bravo, bravo, Mme Malherbe, bravo. Quel journalisme de terrain. Oui, vous faites là. Il y en a qui vont sur le terrain en Ukraine, vous allez dans le petit camion de Patrick.
Oui, boucher ambulant, voilà, c'était Yann, Madame Le Pen. Enfin, il n'y a pas de petite cause, Madame Le Pen. Et puisque vous aimez les journalistes de terrain, Pascal Pro, qui couvre la guerre de CNews, est avec nous pour les titres. Bonjour Pascal.
Bonjour Apolline, et surtout bonjour à Jordan Bardella, Jordan, que je tiens à rassurer, même s'il ne veut plus aller chez Morandini Live. Eh bien, cher Jordan, voilà, de toute façon, je soupçonne que tu as gardé ton badge de CNews et ta carte de cantine. Parce qu'en plus, je tiens à le préciser, on t'a trouvé une place de parking plus proche de l'ascenseur. Ah. C'est celle de Sonia Mabrouk, car quelque chose me dit qu'elle n'en aura bientôt plus besoin. À propos, le nouveau code pour accéder au studio, c'est JB2027. Voilà, allez, c'est parti pour les titres.
Il rit toujours, mais il rit tout de même. Algérie,
allez-y. Algérie, oui, ça commence bien. On commence sur le chapeau de roue, voilà. Les parents de Christophe Glaise, le journaliste emprisonné en Algérie, ont supplié Emmanuel Macron d'agir pour la libération de leur fils après que celui-ci ait été torturé en subissant 45 minutes de visite de Ségolène Royal. Ben oui, vous comprenez, si on reçoit peu de gens de gauche sur ces news, c'est pas par sectarisme, mais uniquement pour respecter les conventions de Genève.
Ah, ça doit être ça.
Voilà, puis cinéma avec la sortie du documentaire sur Mélania Trump et François Cluzet souhaitait réagir.
C'est ça le cinéma français aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre sujet que de faire des films sur une première dame botoxée, déguisée en abat-jour. Alors, allons-y, pourquoi pas un biopic sur la femme du général de Gaulle avec Pierre Ninet dans le rôle de tante Yvonne, ok. Et Françoise Civil, c'est ça, hein, dans le sud, Madame Pompidou, si c'est ça que les gens veulent voir au cinéma, ben, moi je m'adapte, ok. Un tailleur Chanel, un sac à main, une perruque qui pue la laque, et je te fais Bernadette Chirac.
Voilà.
En plus, c'est dans mes cordes, une vieille dame qui râle tout le temps, hein, merde.
C'est un peu vous ça, monsieur Cluzet. Merci beaucoup. Merci à tous. Ségolène Royal est avec nous.
Oui.
Bonjour, madame Royal.
Oui.
Votre déplacement en Algérie a fait polémique.
Oui.
Vous n'avez pas eu un mot en public avec les autorités algériennes sur le journaliste Christophe Glaise.
Oui, oui, oui. Mais écoutez, j'allais pas me livrer en parlant d'un sujet qui fâche. Pardon. Hein. Je viens juste de retrouver un emploi de présidente de l'association France-Algérie. Hein. Donc vous êtes gentil, mais quand vous êtes en période d'essai, pardonnez-moi, vous n'allez pas voir votre patron en vous plaignant de la qualité de la cantine ou des horaires de réunion.
Enfin, vous avez quand même finalement obtenu de voir Christophe Glaise. Enfin, vous n'avez essayé qu'il soit transféré dans une prison plus proche d'Alger.
Oui, ça, écoutez, c'est la méthode de Ségolène.
Ah oui,
hein, oui. Qui mieux que moi pour détendre les relations entre la France et l'Algérie, hein. Si, je m'y connais en relations glaciales et conflictuelles, hein. Je vous rappelle quand même que j'étais en couple avec un certain François Hollande, Voilà, alors il faut que les deux pays mettent de côté leur rancœur et passent à autre chose, hein, comme j'ai su le faire tout en diplomatie avec ce gros bâtard de François Hollande.
Merci, madame Royal. Allez, Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Quel est le programme, Alain?
Eh oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui dans les grandes gueules, nous reviendrons sur cette polémique autour du voyage de Ségolène Royal à Alger avec Jean-Michel de Toulouse, qui est un spécialiste de l'Algérie, puisque chaque dimanche il déjeune au restaurant Les Délices de Marrakech.
Oui, c'est une évidence.
Et puis, la flotte américaine dans le Golfe Persique, la flotte américaine doit-elle attaquer l'Iran? Nous en parlerons avec Christian, qui est au cœur de cette actualité, puisque pas plus tard qu'hier, il jouait avec son petit-fils à la bataille navale.
Oui, pour
nous reviendrons sur le scandale autour de cette différence entre l'autonomie réelle des voitures électriques par rapport à celle annoncée par les constructeurs. Et nous aurons donc, avec attention, le témoignage de Jocelyne qui n'a pas de voiture électrique, mais qui rencontre le même problème d'autonomie depuis plus de 20 ans entre ceux qui lui avaient vendu son mari et le temps qu'il tient lors de leurs ébats amoureux. Voilà. Comme toujours, les meilleurs experts sont dans les GG.
Merci beaucoup, Nicolas Craquelou, pour tous les jours à 8h50 sur RMC, à tout moment en podcast. Merci à Jordan Bardella d'être resté avec nous. Dans un instant, les GG, quel est le vrai programme, Alain?
Eh bien, dans les grandes gueules, nous serons avec l'enseignante Barbara Lefebvre, l'avocat Charles Consigny, l'éducateur Abel Boyon. On parlera du budget de l'État. Est-ce que la crise politique est terminée? On reviendra sur ce que veut faire le MEDEF, la création d'un CDI, nouvelle mouture pour les jeunes. Et puis nous recevrons Eshan, il est iranien, c'est un auditeur des GG au 32-16 et il viendra parler de cette crise qui secoue son pays avec les contacts qu'il a là-bas. Donc rendez-vous avec les GG là dès maintenant entre 9h et midi.